Hénaud Raffaï, hein, qui est un psychologue hongrois récemment et prématurément décédé. Et donc Annie qui a de l'expérience, une grosse expérience, d'après ce que j'ai compris, de ce dont nous parlait Ludwig, c'est-à-dire accompagnement des femmes enceintes en péri et un peu postnatal, avec réduction des, enfin, des complications prénatales, accouchement plus facile et réduction du nombre de blues postpartum. Voilà. Mais je vais te laisser la parole, Annick. Je pense que tu pourras en dire plus que tout ce que je pourrais dire. Merci en tout cas d'être venue, c'est très sympa. Ah oui, peut-être dernière chose, Annick fait des formations sur l'analyse du lien mère-enfant. C'est des formations quand même assez pointues. Et on a, selon vos retours, on a parlé, je ne sais pas si on pourra le faire, peut-être de faire des formations pour nous. Qu'est-ce qu'on peut, puisqu'elle, elle accompagne la périnatalité, et je pense, enfin, je suis même convaincu que ça fait des enfants plus calmes, plus détendus, plus sereins et qui seront moins caractériels pour la suite. Donc, nous, on voit les effets à long terme, parfois à très long terme, de traumatismes périnataux. Donc, on se demandait s'il n'y avait pas moyen de faire une formation pour ça. Hein, c'est à l'étude et cela, ce sera un petit peu selon vos retours. Et puis, quand on avait parlé avec Annick, elle avait un regard psychologie périnatale, enfin, éclairé par la psychologie périnatale de la crise actuelle du Covid, notamment toute cette dramatisation, cette angoisse qui s'est emparée de nous à plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Voilà, merci en tout cas, Annick, et je te laisse la parole.
D'accord, un grand merci. Le tout début de ta vie, c'était dans l'utérus de ta grand-mère, dans le tout petit ovaire de ta mère fœtus. Ce petit ovule que tu es devenu a vécu le temps prénatal de sa mère, sa naissance, sa vie périnatale, son enfance avec ses joies et ses chagrins, son adolescence avec ses révoltes, puis sa vie d'adulte avec ses traumatismes parfois. Après, ce fut son tour à lui de sortir du follicule, d'être rejoint et fécondé dans la trompe par un spermatozoïde. Ensemble, ils sont devenus une nouvelle cellule qui a poursuivi son chemin vers l'utérus. Cette cellule a été plus ou moins bien accueillie dans l'utérus, parfois, qui était comme une jungle luxuriante, parfois plutôt comme un désert. Et puis le fait qu'elle soit là, cette cellule, ça a été reçu aussi de façon différente par les parents, comme quelque chose de positif, de dramatique ou bien de mitigé. Il y a eu tous les examens de grossesse avec toutes les peurs que cela peut comporter, donc un très long chemin pour arriver à ta naissance. C'est pourquoi l'analyse du lien et la psychologie prénatale s'intéressent particulièrement à cette période de la vie. Parfois, dans ce travail, on revient à quelques mois avant la naissance, parfois à la conception, parfois même plus loin. C'est pour ça qu'on peut dire que l'utérus, pendant la grossesse, est un espace de vie de plusieurs générations. Voilà, je m'appelle donc Annick Delamotte, je suis sage-femme. J'accompagne depuis 35 ans des femmes lors de l'accouchement à domicile. Et très vite, j'ai remarqué qu'il y avait très rarement des dystocies osseuses, donc des bassins trop étroits. Donc, il y avait très, très rarement des raisons anatomiques quand un accouchement ne marchait pas bien. Mais j'ai peut-être rencontré deux, trois femmes qui avaient vraiment un bassin trop étroit. Et même une de ces femmes a alors accouché d'un enfant plus petit par voie vaginale lors d'une grossesse qui a suivi. Donc, si ce n'est pas les os, si ce n'est pas l'anatomie, quelle est la raison pour laquelle beaucoup d'accouchements sont longs et difficiles? Pourquoi le nombre de césariennes augmente? Ce n'est pas seulement à l'hôpital qu'elles augmentent, c'est aussi dans la pratique à domicile. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait des raisons, des dystocies de relations ou bien des croyances que les femmes avaient, ou encore d'autres raisons psychologiques pour lesquelles, hein, que la femme avait de bonnes raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas mettre cet enfant au monde. Donc, j'ai cherché si il y avait une possibilité d'aider les femmes à vivre leur accouchement en plein dans leur force. Et je me suis intéressée aux thérapies systémiques qui ont sûrement été très efficaces, ou en tout cas qui m'ont aidée à voir un peu plus clair dans la jungle. Puis je me suis un peu penchée sur l'autonomie qui a aussi amélioré la relation avec l'enfant. Mais ce n'est que quand j'ai découvert l'analyse du lien que j'ai vraiment eu l'impression que là j'avais un outil dans les mains avec lequel je pouvais travailler beaucoup beaucoup plus profondément. L'analyse du lien était développée dans les années 90 en Hongrie par deux psychanalystes hongrois qui travaillaient avec des adolescents psychotiques et qui ont remarqué qu'il y avait des faits récurrents. Presque tous, ils avaient une grossesse, enfin la grossesse de leur mère avec eux avait été difficile. C'est très, très marquant qu'il n'y a pas de mots pour dire ma grossesse. C'est la grossesse de ma mère avec moi. Donc, leur mère avait eu une grossesse difficile. L'accouchement avait été long et difficile. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de différenciation entre la mère et l'enfant. Donc, la mère considérait cet enfant comme une partie d'elle-même. Et ils ont remarqué aussi, dans certains transferts, que l'adolescent psychotique pensait qu'il était dans le corps du thérapeute, comme s'il était une partie du corps du thérapeute. Voilà, c'est sur base de ces observations qu'ils ont eu envie de développer une méthode préventive. Comme Jacques disait tout à l'heure, souvent on se trouve avec les situations qui sont la suite de traumatismes qui remontent à très très loin. Et donc, ils ont développé une méthode pour permettre un contact très précoce, un lien très précoce entre la mère et son enfant déjà pendant la grossesse. Ils ont observé des effets très bénéfiques en plus d'établir ce lien. Donc, ils n'avaient non seulement vraiment un lien qui s'établissait déjà très tôt, des femmes qui étaient heureuses d'établir ce lien, des grossesses moins difficiles, des accouchements plus facile, le nombre de césariennes qui diminuait, mais aussi des enfants qui étaient à la fois plus éveillés et plus tranquilles. Donc des enfants qui étaient plus éveillés la journée et qui dormaient mieux la nuit. Et puis aussi, il y avait une diminution significative du nombre de dépressions. Moi, ça me paraît tout à fait logique si on est vraiment en relation avec son enfant et qu'on sait pourquoi on fait ce travail. On aura plus de tendance à trouver du sens dans ce qu'on fait. Alors, sur base de ces différentes observations, ils ont eu envie d'enseigner cette méthode. Et c'est à ce moment-là à peu près que Ludwig Janus et Jenő Rafály, qui est un des fondateurs de cette méthode, se sont rencontrés et ont décidé d'enseigner la méthode en Allemagne. Elle s'est répandue rapidement dans les pays germanophones, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, et puis ensuite aux États-Unis, et très peu dans les pays francophones, à peine en Belgique et en France, et un peu aux Pays-Bas. Donc, comme Jacques le disait, Jenő Rafály est mort précocement, et il a formé, ou bien il a nommé un gremium de 4 personnes, qui étaient ses plus étroits collaborateurs, et qui, à leur tour, ont enseigné cette méthode. Et Ludwig est un de ces membres du gremium et Ursula, que vous voyez, là, Ursula Wolfers. Alors, dans l'analyse du lien, il y a plusieurs hypothèses de travail. Cette première hypothèse est que le processus intra-utérin le plus important est le passage de l'unité et de la ressemblance en début de grossesse à la différenciation et l'individuation en fin de grossesse. Rafály et Hidash, qui ont développé cette méthode, considèrent que c'est la représentation de ses propres limites corporelles qui permet au bébé la construction de son moi. son mot qui est différent de celui de sa mère. Donc, il y a toujours d'abord une différenciation des limites corporelles avant la différenciation du moi. Ce qui veut dire que le fœtus ne sort pas seulement du corps de sa mère, mais son moi se développe à partir de la psyché de sa mère et de la représentation de l'enfant qu'elle se fait dans son inconscient. Hein, on sait très bien, il ne peut pas y avoir de moi sans avoir un autre. Et si cette différenciation ne s'est pas accomplie, comme Yenne et Hidash le suppose pour la plupart des adolescents schizophrènes qu'ils ont traités, l'enfant se considère comme une partie de sa mère, même comme un de ses organes. Le bébé ne se vit pas comme une personne complète. Et aussi longtemps que l'enfant a des limites corporelles communes avec sa mère, l'accouchement est long, difficile, puisque la naissance peut aussi signifier la mort. Comme organe, il n'est pas possible de survivre seul. Parfois, il y a certaines limites qui restent. Et alors, l'accouchement est long aussi et considéré comme un arrachement pour la mère et pour l'enfant. Il y a une technique en analyse du lien que nous appelons le jeu du miroir et qui consiste tout simplement, la mère dit à son enfant, regarde à son enfant in utero, regarde mon enfant, ça c'est mon cœur, ça c'est ton cœur, voilà ma tête, ça c'est ta tête, voilà mon nez, etc. Comme les petits enfants jouent ce jeu aussi très 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 souvent. Et au début, quand j'ai fait ma formation en analyse du lien, j'ai trouvé ce jeu un peu simpliste. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait de plus en plus ou que j'ai accompagné de plus en plus de femmes avec l'analyse du lien, je me suis rendu compte que les femmes adoraient ce jeu et que très souvent c'était uniquement après ce jeu qu'on commence environ à la 30e semaine que les femmes avaient une image de leur bébé réel dans leur utérus et pas un enfant de 3 ans par exemple qu'elles imaginaient. Alors, notre deuxième hypothèse de travail, c'est que la plus grande performance de la femme durant la grossesse est de cesser d'être principalement la fille de sa mère pour devenir la mère de son enfant. Ça vaut évidemment également pour le père. Donc, la femme qui était jusqu'à présent, généalogiquement, la fille de ses parents doit maintenant devenir surtout la mère de son enfant. Et tout ça, c'est une histoire compliquée de séparation, de renoncement à la dépendance intérieure qui l'unit à ses parents, pour qu'un autre être puisse devenir dépendant d'elle. Jusqu'à présent, elle était objet de la dépendance. Maintenant, elle va devenir sujet de la dépendance de son enfant vis-à-vis d'elle. C'est un peu banal, cette histoire de dépendance, mais très souvent, quand une femme n'est pas encore devenue tout à fait adulte, parce qu'elle est encore trop liée à ses parents comme enfant, elle peut difficilement devenir mère aussi. Et une femme qui peut difficilement être adulte, difficilement être mère, va avoir aussi des difficultés à mettre son enfant au monde. Troisième hypothèse de travail, pendant la grossesse, l'utérus est la place du marché des générations. La femme enceinte est particulièrement sensible. Ses sens sont exacerbés. Les femmes enceintes sentent, par exemple, extrêmement bien. Souvent, elles sentent bon aussi, mais ce que je veux dire maintenant, c'est qu'elles sentent vraiment bien. Le sens de l'odorat est extrêmement développé. Mais elle est également plus perméable à l'histoire familiale. Elle peut ressentir pendant la grossesse mieux la violence faite à sa grand-mère, les interdits et devoirs des générations avant elle. J'ai rencontré une femme qui était enceinte, qui était très heureuse d'être enceinte, et qui était mariée avec un homme qu'elle aimait profondément. Et un jour, son mari est rentré de son travail et avait acheté un nouvel aftershave. Et quand il l'a embrassé, cette femme est tombée en syncope. Elle s'est réveillée rapidement après quelques secondes, c'était pas grave. Mais en se réveillant, elle s'est rappelée les abus sexuels qu'elle avait subis étant enfant et très jeune adolescente qui avaient été perpétrés par un voisin et ami des parents. Et elle avait tout à fait occulté ça, elle avait tout à fait oublié jusqu'au moment où, en sentant l'aftershave de son mari, qui était le même aftershave que celui de l'homme qui l'avait abusé, elle est revenue à tous ses souvenirs. Et ça, c'est très certainement plus facile pendant la grossesse ou plus possible. Et c'est pas, ça ne vaut pas seulement pour la mère, l'enfant pendant la grossesse peut aussi sentir ce qui s'est passé dans les générations qui l'ont précédé. Par exemple, on a vu des enfants qui se mettaient en siège par fidélité à leur père, dont cela était le mode de naissance. Yéné Raphaël rappelait un cas où il avait alors simplement, où la mère avait dit à l'enfant, tu sais, c'est pas parce que ton père est né par siège, c'est son histoire à lui, que tu dois aussi rester en siège. Cet enfant s'est tourné en sommet, donc avec la tête d'abord, pendant cette séance-là. Et en analyse du lien, on localise l'influence de la généalogie, comme on la connaît de nombreux auteurs, dans l'utérus comme demeure du bébé à naître. La quatrième hypothèse de travail, c'est que les sensations corporelles transportent nos mémoires dès le début, là on se retrouve certainement. Les souvenirs sont enregistrés dans le corps même à un niveau transgénérationnel. L'embryon et le fœtus, puis le bébé et le très petit enfant se trouvent dans un monde préverbal. Ils n'utilisent la langue parlée ni pour communiquer ni pour raisonner. Pourtant, de nombreuses thérapies d'adultes semblent le confirmer. Tous les souvenirs sont ancrés dans le corps. C'est pourquoi, lors d'une analyse du lien, on attache une très grande importance à toutes les sensations corporelles. Ce que vous vivez aussi avec, dans vos thérapies, on peut ressentir durant une session des douleurs insupportables, par exemple un souvenir personnel de sa propre naissance, et ces douleurs cessent immédiatement dès que la séance se termine. Cinquième hypothèse de travail, la femme enceinte peut faire grâce à l'analyse du lien de grands changements intérieurs. Parfois, elle va revivre sa propre grossesse ou sa naissance. J'ai fait il n'y a pas longtemps une analyse du lien avec une femme dont c'était la troisième grossesse et son premier bébé était né en siège de façon vaginale, mais un accouchement assez long. Et puis, le deuxième accouchement avait été facile. Et pendant les quatre ou cinq premières séances de l'analyse du lien pour son troisième enfant, elle avait des sensations extrêmement désagréables. Elle était suspendue dans le vide, avait des douleurs lancinantes dans la tête, des nausées. Ses pieds pendaient, accrochés à rien. Elle ne sent plus le sol sous ses pieds. Il n'y a plus d'appui, plus de sécurité, plus de réconfort, plus de soutien. Peut-être est-ce l'expression de la détresse de sa mère que le père de cette femme avait quitté un tout petit peu avant la naissance. Et ces sensations, en tout cas, se répètent durant 4 séances. Et après 2 séances environ, cette femme arrive chez moi et me dit que maintenant, elle a vraiment compris pourquoi son premier bébé est né en siège, que cette sensation au niveau de la tête était tellement désagréable et cette sensation aussi de ne plus avoir aucun soutien était tellement désagréable qu'elle avait sans doute transmis à son enfant qu'il était plus sûr de naître en siège. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle avait toujours entendu dire que son accouchement avait été très facile, elle était un deuxième enfant, et donc le vécu de la mère et le vécu de l'enfant sont souvent totalement différents. Ça, c'était une première chose que j'ai trouvée très intéressante. Et la deuxième, c'est que à partir du moment où elle avait compris ce qui s'était passé pour son premier enfant, ou ce qu'elle avait pensé comprendre pour son premier enfant, ça ne veut pas dire que ces sensations très désagréables ont arrêté. Donc le corps a dû continuer à s'exprimer jusqu'à ce qu'il ait vraiment terminé. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on a compris qu'il n'y a plus rien dans le corps. Pour que ça se libère vraiment, il faut donner au corps la possibilité de terminer son travail jusqu'à la fin. C'est important pour moi que ce soit elle qui me dise comment elle interprétait ses sensations. C'était beaucoup plus puissant pour elle. Par cette méthode de régression qu'on utilise en analyse du lien, les blessures et traumatismes peuvent remonter à la surface et perdre leur pouvoir destructeur. La grossesse est souvent une phase de remaniement identificatoire important qui est comparable à une crise d'identité. L'analyse du lien n'est pas considérée comme une thérapie, mais plutôt comme un accompagnement préventif durant la grossesse avec le but de favoriser le lien entre la mère et l'enfant. Il débute quand la femme en fait la demande, mais on peut, c'est bien de ne pas commencer trop tard pour qu'on ait le temps de faire ses rangements et pour que le contact puisse bien s'établir entre la mère et son enfant. Il m'est déjà arrivé de commencer avant la grossesse, par exemple chez une femme qui avait eu des fausses couches, 3 en un an, et qui en était gravement attristée, et qui m'avait demandé d'employer les techniques de l'analyse du lien pour l'aider à surmonter cette période ou à se rééquilibrer émotionnellement dans cette période. Et elle est devenue enceinte pendant ces interventions, ce qui fait qu'on a eu une analyse du lien qui était très très longue. L'analyse du lien commence par une anamnèse très soignée. Comme sage-femme, j'ai toujours fait une anamnèse assez poussée en employant un génogramme, mais j'ai toujours eu l'impression que je devais un peu me dépêcher, que je devais un peu brusquer les femmes. Et en analyse du lien, on a souvent 4 ou 5 heures d'anamnèse. Les femmes, j'ai l'impression, adorent de se raconter. Et souvent, il y a déjà beaucoup de choses qui se résolvent pendant cette anamnèse. Une femme m'a dit, par exemple, que grâce à l'anamnèse, ce n'était pas seulement moi qui avais pu la découvrir, mais qu'elle avait découvert en elle aussi une nouvelle femme. Alors, les sujets de l'anamnèse, si cet enfant est désiré, si la femme elle-même était désirée ou bien planifiée ou bien pas désirée du tout, et souvent ce sont des termes tout à fait différents, même si en général on les amalgame un peu. Et une question qui me paraît aussi très importante, c'est que la femme raconte ce qu'elle a entendu, ce qu'on lui a toujours raconté, et ce qu'elle a elle-même comme sentiment d'avoir été désirée ou pas. Souvent, l'anamnèse conduit les femmes aussi à reparler avec leur mère de leur accouchement, et parfois ça fait boule de neige. Je pense à une femme avec qui on a parlé de sa naissance, et surtout de sa naissance, il y avait eu un forceps à cause d'une souffrance fœtale, et puis elle a redemandé des détails à sa mère. Et sa mère, à cause d'une question que je lui avais posée, en quel état elle était juste après la naissance. Et puis alors, la mère a dit qu'il y avait une souffrance fœtale. Tout le monde a commencé à paniquer. On lui a dit qu'il fallait intervenir immédiatement, faire ce forceps. Et puis après la naissance, l'enfant était en pleine forme. Et à ce moment-là, la mère a compris qu'en fait, son intuition qu'elle avait, que son enfant allait bien, et la relation qu'elle avait avec son enfant était correcte, que sans doute les mauvais bruits fœtaux avaient été mal interprétés. Et ça me paraît très important parce que une femme qui pense que son intuition par rapport à son enfant n'est pas bonne, elle se pense non compétente. Et une femme qui se pense non compétente aura plus tendance à avoir des sentiments de culpabilité, et une femme avec des sentiments de culpabilité aura moins tendance à être en bonne relation avec son enfant. Donc ça me paraît déjà vraiment très, très important. Alors, le déroulement de l'analyse du lien, donc c'est d'abord l'anamnèse, et puis ce qu'on appelle les heures du bébé. Il y a une séance d'environ 50 minutes par semaine. En général, comme je l'ai dit, on commence quand la femme veut, mais en général, on commence à la 20e semaine. Il y a d'abord un temps pour parler, où la femme raconte ce qu'elle a vécu pendant la semaine, ce que la séance précédente a peut-être laissé comme trace en elle. Ensuite, avec un petit texte d'introduction, on invite la femme à entrer en relaxation très profonde et à prendre contact avec son utérus et son bébé. On lui demande de faire confiance à ses sentiments, aux images qui peuvent apparaître, mais aussi surtout de se fier à ses sensations corporelles. On dit alors les sensations corporelles qui contiennent toute ton histoire, dès le tout début. Il ne s'agit pas d'imagination, d'hypnose ou de voyage guidé. On attend simplement que les contenus de l'inconscient qui veulent émerger arrivent à la surface. Ludwig Janus dit que l'analyse du lien, c'est très facile. La seule chose qu'il faut soutenir, c'est que ces contenus destructeurs qui sont inconscients arrivent à la surface et puis après, il ne faut plus rien faire, c'est l'âme qui guérit. L'analyse du lien interprète très peu, ni au moment de la régression, ni dans la discussion qui s'engage de nouveau après la discussion, après la régression. La femme parle éventuellement pendant la régression ou elle raconte après ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a interprété. L'analyse du lien n'est pas passive, mais joue surtout un rôle de contenant en créant un cadre sécurisé et sécurisant et en aidant la femme à rester dans son ressenti. Tout au plus peut-il l'orienter sur une liste, sur une piste. Certaines femmes entrent très facilement en régression. D'autres pas, je pense maintenant à Nadia, qui pendant les 5 ou 6 premières séances n'a pas trouvé de bébé dans son utérus. Et ce n'était pas étonnant pour nous parce que nous savions de son anamnèse que sa mère, alors qu'elle était mariée depuis un an environ, n'avait pas remarqué sa grossesse, donc elle avait tout à fait occulté qu'elle était enceinte. Et quand elle a eu des douleurs fortes, des douleurs abdominales fortes, elle a cru qu'elle avait un calcul au rein. Elle a été chez son médecin et c'est uniquement à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle allait être mère. Et donc, le bébé d'alors, qui était maintenant en analyse du lien pour son deuxième enfant, elle avait une césarienne pour le premier et elle disait que de toute sa grossesse, elle n'avait jamais était en contact avec son enfant. Et donc, il a fallu 5 ou 6 séances pour qu'elle entre en contact avec son enfant, pour qu'elle découvre d'abord un cocon dans son utérus, et puis elle a vu les deux yeux du bébé, puis la tête, et puis après un certain temps, son bébé était bien là. Alors, il y a, à partir de la 36e semaine, il y a quelque chose qui me plaît très fort dans cette méthode, et c'est la phase de préparation à la naissance, qui est aussi appelée phase de séparation. Donc moi, j'aime bien le mot séparation, parce que j'ai rencontré souvent, lors d'accouchement, des femmes qui, en fait, arrivaient à l'accouchement sans savoir qu'elles allaient se séparer de ce bébé, qu'elles allaient vraiment le mettre au monde. Hein, pour ceux d'entre vous qui sont aussi homéopathes, il y a, pour le pulsatilla, c'est l'image de la grossesse qui procure un tel épanouissement qu'on ne veut jamais arrêter d'être enceinte. Alors, dans cette phase de séparation, il y a 9 textes qui sont lus à la femme, à 9 rencontres différentes en principe, sauf si l'emploi du temps de la femme ou de l'analyse du lien ne permet pas d'avoir autant de rendez-vous. Alors, éventuellement, on peut grouper ces rendez-vous, mais moi j'aime beaucoup d'en faire plusieurs, je trouve que c'est vraiment une excellente préparation. Donc ce sont des textes qui sont lus en début de séance et puis la femme, quand elle est en régression, les répète en de courtes phrases à son bébé, bien entendu dans ses mots à elle et uniquement ce qu'elle a envie de dire à son enfant. Et durant cette dernière phase, le bébé est préparé au fait de naître et au changement que cela signifiera pour lui. Hein, souvent on n'y pense pas, mais ça veut dire qu'il y aura un changement de température, de bruit, de gravité, d'alimentation, le toucher, la lumière, hein, tout ça est important, en tout cas que les parents prennent conscience. Et puis sa mère lui raconte ses souvenirs de toute la grossesse, puis le bébé lui fait part de ses souvenirs à lui qui sont souvent très différents. Et cela permet à la femme d'entrer de façon très détendue dans la dernière phase de la grossesse parce que tout a été dit. C'est l'impression qu'on a très souvent lors de ces deux séances-là. Enfin, une séance est consacrée aux sentiments divers que peuvent éprouver mère et enfant, tels que peur, colère, ressentiment. On parle des ambivalences. Tu vas bientôt naître et je m'en réjouis, mais j'ai aussi envie de te garder en moi. Dans une autre séance, la femme dit à l'enfant qu'elle prend la responsabilité pour ses propres sentiments et qu'il peut naître quand il est prêt, sans avoir peur de ses sentiments, de douleur, de peur de la douleur à elle, de sa mère. Et puis alors, il y a aussi une séance où c'est la famille qui se rassemble, éventuellement avec les grands frères et sœurs, et montre à l'enfant l'endroit où il va naître. Éventuellement, on montre où il va dormir, où les frères et sœurs dorment. Et ça a un effet ça rend l'enfant très concret déjà pour toute la famille. On lui dit aussi qu'il va être peut-être touché par des personnes étrangères mais qu'il va toujours revenir dans les bras de ses parents et que s'il est à l'hôpital pour naître, qu'il rentrera à la maison avec ses parents. Puis enfin, à la toute dernière séance, l'enfant est préparé de façon très concrète à l'accouchement. Puis on remercie l'utérus du travail accompli pendant la grossesse. Et on considère l'accouchement comme une continuation de ces séances. Ça veut dire que la femme tente d'être en contact avec son enfant pendant l'accouchement et que si elle a du mal à le faire, ça peut être le père qui prend le relais. Après une analyse du lien, l'accouchement est ressenti par beaucoup de femmes ou de couples, justement comme la continuation de sa rencontre. Et la femme peut trouver un sens à son travail de mettre au monde et vivre pleinement son accouchement, quel qu'en soit le déroulement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de césarienne ou plus d'accouchement difficile, mais en général, la femme est plus en possession de son accouchement. Plusieurs auteurs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, décrivent les nombreux avantages de l'analyse du lien. Moi, je suis plutôt réticente à mettre ces avantages en exergue parce que j'ai l'impression que ça met trop de pression sur la personne qui accompagne l'analyse du lien et pour la femme aussi. Un peu comme si j'ai une césarienne, ou bien si la femme a une césarienne, est-ce que j'ai mal travaillé? Ou si mon bébé crie de temps en temps, est-ce que ça veut dire que je ne me suis pas donnée à fond dans l'analyse du lien? Donc, je pense que c'est mieux d'observer que c'est un processus dynamique et que tout ce qui a de bon qui se passe, que ça suffit tout à fait. Alors, pour terminer, j'aimerais bien de vous raconter l'histoire de Luan. Dans l'analyse du lien, nous travaillons de façon étroite avec les thérapeutes de bébés, les thérapeutes de bébés qui savent lire dans le corps des bébés, les traumatismes qu'ils ont éventuellement subis pendant l'accouchement ou peut-être parfois pendant la grossesse. Il y a des bébés qui font toujours ce geste-là. Et j'ai déjà vu des thérapeutes pour bébés alors qu'ils les consolaient, qu'ils les guérissaient en les touchant aussi à cet endroit-là. Chez la plupart des thérapeutes actuels, pour bébé, le fait de pleurer n'est pas considéré exclusivement comme un signe de détresse, mais bien comme un moyen mis en œuvre par le bébé pour se guérir de ses traumatismes, pour crier ses sentiments et regagner son équilibre émotionnel. Et bien entendu, des parents qui sont émotionnellement équilibrés auront plus de facilité à offrir un bon containment pour le bébé, à lui offrir un bon vis-à-vis. Donc, Luan a eu une grossesse très difficile, il est né à domicile. Et lorsque nous remarquons qu'il ne respire pas de façon adéquate, nous sommes extrêmement calmes, lents presque, en relation avec lui. Nous lui expliquons ce qui se passe, nous lui racontons que le SAMU va bientôt arriver et les interventions qu'ils vont faire. Luan reste sur le ventre de sa mère durant les premières 10 minutes de sa vie. C'est là que nous commençons sa réanimation. Nous sommes attentifs à lui, ses parents parlent avec lui, l'encouragent. Après le transfert en néonatologie, Luan est refroidi jusqu'à 33 degrés de température corporelle pour diminuer les risques de traumatisme cérébral. Le pronostic médical est extrêmement pessimiste, mais Luan sort de l'hôpital après 2 semaines et tous les examens sont normaux. Durant ces 3 premiers mois, il est très très tranquille, comme s'il attendait que le plus gros soit passé pour réagir au traumatisme subi lors de la période périnatale. À 3 mois de vie exactement, Luan commence à pleurer tous les jours de 14 à 15 heures et c'est l'heure exacte du début de l'hypothermie thérapeutique. Là aussi, sa mère est tout à fait présente. Elle comprend que Luan est en train de se guérir, qu'il est son propre thérapeute, qu'il est en train de pratiquer sa propre résolution émotionnelle. Elle reste près de lui, le console, supporte ses pleurs, ne retombe pas dans sa propre vulnérabilité, dans sa propre impuissance de petit bébé, Elle comprend qu'il crie sa peur, sa douleur, sa solitude. Luan se développe parfaitement. Il est même un peu en avance par rapport au développement moteur et cognitif des enfants de son âge. Il aura 3 ans au mois de juin. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup, Annick. C'est vraiment très émouvant et intéressant.
Ouais,
c'est vrai, ce que tu parles, quand tu parles de Luan, des 3 mois, on a l'impression, ce dont on parlait déjà avec d'autres, cette période de figement après un traumatisme. Mais enfin, je suppose qu'il y a plein de questions. Enfin, moi, je suis très, très ému, très touché par ce qui se passe. Et même si on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire l'utérus, je pense qu'on peut facilement reconnaître les séquelles à distance, des traumatismes qui n'ont pas été empêchés et prévenus chez nos patients.
Oui.
Donc, ma question, ce serait comment faire le lien, comment on peut, après coup, régler ça, comment on peut identifier ces choses, peut-être en reprenant l'interrogatoire, quoi. Comment s'est passée
oui,
votre naissance, comment s'est passée celle de votre maman, est-ce que vous avez été désirée, enfin, c'est des ponts qu'on a déjà.
Oui.
Tu as peut-être des idées plus précises que ce que je peux avoir.
Bon, ça paraît en effet un excellent début de poser ces questions parce que ça fait travailler énormément et ça fait travailler dans les familles aussi. C'est ça que je trouve très impressionnant. Quand les femmes retournent chez leurs parents, en général, les pères, donc le père de la femme enceinte est souvent pas très intéressé par l'analyse du lien, mais les femmes accrochent, les mères accrochent, les grand-mères accrochent. Et il se passe beaucoup au niveau de la relation aussi. Et c'est un peu comme si, comme dans le cas dont j'ai parlé de Ruth, comme si la mère corrigeait après coup.
Voilà. Oui, donc c'est une démarche qui est thérapeutique, y compris pour la maman.
C'est ça.
Guérison de ses traumatismes à elle. Nous, on voit des adultes, mais c'est enfin, là, comme si la grossesse avait des effets thérapeutiques quand elle est bien accompagnée comme ça.
Oui. J'ai aussi accompagné une femme où il y avait une grande inconnue qui nous renvoyait toujours à sa mère dans ses sensations corporelles. Et on a reparlé avec sa mère. Elle a dit, mais il a dû se passer quelque chose, je le sens dans mon corps. Et pour la première fois, alors que la fille avait déjà posé cette question très, très souvent, la mère a parlé des viols qu'elle avait subis par son grand-père. Hein? Et là, ça a changé beaucoup aussi dans la relation, évidemment, entre la fille et la mère. Et pour la fille, elle a enfin compris une partie de sa biographie.
Et oui.
Et de son choix professionnel aussi.
Donc, ça l'a aidé à guérir dans plein de domaines de sa vie, je suppose.
C'est ça. Okay. C'est ça.
Moi, je trouve ça vraiment très émouvant, très, très passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a parmi vous des gens qui travaillent avec des petits, je pense à Aline, qui en plus vient d'être grand-mère, à Anaïs, qui doit se cacher, à d'autres. Parce que je pense qu'on peut aussi, enfin, on peut accompagner ces soins, cette prise en charge du lien après la naissance, quand le bébé est petit. Enfin,
oui, c'est vrai. L'analyse du lien est plutôt prévue pour la grossesse,
ouais.
Mais très souvent, on accompagne après coup aussi quand il y a eu des accouchements traumatiques.
Oui.
Et quand la femme parvient à avoir un autre regard sur sa naissance, elle sort de ce frozen state. Hein, comment, je ne sais pas comment c'est en français, d'être congelé.
D'accord.
Hein, après qu'elle est, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Le figement.
Comment?
Le figement.
Voilà.
On parle de figement dans les stress post-traumatiques.
Et automatiquement, évidemment, quand la femme quitte le fait d'être figé, elle va changer sa relation avec son enfant.
Bon, alors, les soignants de bébés, les mamans, là, il y en a plein.
J'aurais voulu partager quelque chose, mais c'est un peu perso, mais ça, c'est quand même pas. Je pense que ça peut intéresser. On m'arrête, voilà, ça va pas. Mon dernier enfant est né par césarienne. Il a malheureusement été placé dans une couveuse qui ne fonctionnait pas. Donc, il a été en insuffisance respiratoire. C'est son papa qui a dû appeler SAMU et faire muter à l'époque à de grosses. Voilà. Donc, j'ai récupéré au bout de 2 jours en presque forme. Enfin, bref. Et un an après, nous étions avec nos deux premiers enfants qui étaient dans un manège. Et il y a une cloche qui a sonné, qui a résonné dans le manège. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour le tonton, enfin bon, si je ne me rappelle plus. Et là, mon premier qui était dans sa poussette, mon dernier qui était dans sa poussette, a fait une crise de panique mais terrible. A tremblé, a transpiré. J'ai vraiment cru qu'il s'était fait piquer par une guêpe, voilà. Donc, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai rassuré, je me suis éloignée. Je l'ai remis dans la poussette. Deuxième tour de manège, même crise de panique. Donc là, j'ai dit, non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis éloignée, hors de question qu'il retourne sur le site, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à l'époque, j'avais un médecin qui était vraiment super, enfin, bien au niveau des enfants, qui était vraiment top, top, top. Et je l'ai appelé. Alors, on était en vacances. Et il m'a dit, votre fils a dû entendre ça dans sa couveuse. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, il avait cette crise de panique qui était lié à ce qu'il avait entendu dans sa cause. Donc, on a fait un rendez-vous chez le médecin pour lâcher ça. C'était plus un rendez-vous psycho qu'un vrai rendez-vous. Et c'est vrai que je pense qu'il a sauvé plein de traumas et des cristallisations peut-être par la suite. Donc, voilà. Quoi, je suis vraiment très, très... merci beaucoup, Annick, de cette conférence parce que c'est vraiment magnifique de savoir qu'effectivement, dans la périnatalité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer, énormément de choses. Et là, aujourd'hui, si on se met en marche là-dessus, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, je voulais vous faire partager cette expérience.
Merci.
Merci. Merci. C'est vrai, ça ouvre vraiment des perspectives, même si on est un peu informé, et là, on a l'impression qu'on a plein d'infos. Oui. La cloche, l'aftershave, c'est vrai qu'on a souvent des sensations, des perceptions sensorielles starter pour nos émotions.
Oui, c'est vrai.
Et on peut régler des choses enfouies depuis des décennies.
J'ai une question, si c'est possible, ouais.
Bien sûr.
Je trouve ça hyper frustrant d'en entendre parler aujourd'hui alors que mes filles ont 15 et 17 ans. J'aurais préféré en avoir entendu parler il y a 18 ans, mais bon, c'est comme ça. Par rapport à la phase, parce que moi je fais de l'hypnose, donc du coup ça m'intrigue un peu cette phase de relaxation profonde, parce que je trouve que l'hypnose c'est un peu ça. Je me demandais juste, il y a toujours quelque chose qui émerge dans la séance? Combien de temps durent les séances et au bout de combien de... Les femmes, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui émerge et comment ça se passe?
En général, on parle une dizaine de minutes quand elles arrivent.
Ouais.
Et puis, elles sont en régression pendant 25 minutes. En général, ça suffit et on pense que ça suffit au bébé. Et c'est très souvent aussi qu'à la fin de la séance ou même après 20 minutes, le bébé dise « maintenant, ça suffit ».
D'accord.
Hein? Et il y a toujours une espèce de... donc, quand elles arrivent, elles rencontrent le bébé, elles sont en contact, et puis brusquement, elles ont des sensations corporelles qui les fait partir tout à fait autre part.
D'accord. Et ça arrive toujours, ça?
Ouais. Non, ça n'arrive pas toujours, je vais en parler après. Et à ce moment-là, le bébé ne bouge plus du tout. Alors qu'au départ, quand la mère arrive dans son utérus et dit « Hey, salut bébé, comment vas-tu ? » Là, le bébé, elle peut sentir de l'extérieur que le bébé bouge énormément. Et puis, quand la femme fait ses propres trucs, le bébé est tout à fait calme. Mais il est possible qu'à la fin, ils disent « maintenant, ça suffit. Maintenant, reviens. Maintenant, je voudrais que tu t'occupes de moi de nouveau. » Hein? Ou bien si la femme dit après « Oh là là, pauvre bébé, toutes ces choses dont j'ai parlé maintenant ou tout ce que j'ai vu. » Et alors le bébé dit « Ah oui, ben moi je sais bien que c'était tes trucs à toi, mais maintenant ça suffit. Mmh. » Donc, il y a certaines femmes qui n'entrent pas du tout ou très peu en régression. Donc, il y a des femmes qui font... qui s'imaginent, qui font plutôt dans des trucs d'imagination. Hein. Elles sont avec leur bébé, et puis elles sont assises dans l'herbe, et puis le papa est là aussi. Hein. Et on attend un peu, on voit si ça va changer dans les séances qui viennent. tout en sachant que ce temps appartient aux femmes. Mmh. Donc, c'est pas à moi à dire tu travailles pas assez bien, tu vas pas assez en profondeur.
Non, bien sûr.
Et il y a certaines femmes qui parlent tout le temps pendant la régression parce qu'elles ont l'impression que ça les aide à se tenir comme à une main courante. Il y a d'autres femmes qui, au contraire, se taisent et qui sont, enfin, si je dis le moindre mot, elles sont tout à fait étonnées parce qu'elles sont tellement en profonde régression que ça les dérange, ça les sort de là. Il y a des femmes qui voient des couleurs uniquement. Mm-hmm. En fait, une femme qui me décrivait les couleurs tout au long de la séance. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est de faire une analyse de lien avec la même femme pour différentes grossesses, parce qu'il y a souvent des thèmes qui sont tout à fait différents. Moi, je me souviens d'une femme où le thème pour le deuxième enfant, est-ce qu'il y a assez de place dans mon cœur de mère pour deux enfants, est-ce qu'il y a assez de place pour assez d'amour dans une famille pour deux enfants, et pour le troisième enfant, elle a eu des images de femmes de générations avant elle. Hein, certaines choses qu'elle reconnaissait, c'était sa mère ou sa grand-mère, toutes des croyances, que trois enfants, c'était beaucoup trop, qu'on n'allait jamais parvenir, qu'en plus, on était toujours seule comme femme. Hein, et donc, elle a pu comprendre pourquoi elle avait tant de mal à accepter ce bébé qu'elle n'avait pas prévu. Mais elle arrivait toujours par les sensations corporelles à ces images. Mmh. Hein, mais elle avait besoin d'être un peu guidée. Donc, elle disait, j'étouffe. Et puis, je lui demandais d'aller à cet endroit-là. Et puis, alors, elle arrivait à une des femmes des générations avant elle.
Ok, merci.
Et c'est des éléments qui sont vérifiables, je suppose.
Oui, c'est vérifiable, mais moi, je ne vérifie pas.
Oui.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce que la femme dit. Hein, et si ça l'intéresse de vérifier, hein, comme cette femme-là était très intéressée de demander à sa mère et de demander à sa grand-mère, mais si elle ne l'avait pas fait, moi, je ne l'aurais pas conseillé de le faire.
Bien sûr, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas de l'imagination, non. C'est des choses qui ont vraiment eu lieu.
C'était... Oui, et c'est pour ça que je pense que c'est important de se rappeler hein, ce dont j'ai parlé tout à fait au début, que comme petite ovule, on est vraiment déjà dans l'utérus de sa grand-mère.
Oui, oui. Oui, c'est une exploration de l'inconscient finalement.
C'est ça.
Trop fort.
Et bonsoir, c'est Laurence qui parle. Vous avez à un moment, vous avez évoqué le terme de régression, mais si c'est pas de l'hypnose ou autre chose, c'est quoi en fait? J'ai du mal à conceptualiser ça dans ma tête.
Ok. La femme se couche. En général, sauf si elle a eu, si elle a des jumeaux et que son ventre est tellement lourd qu'elle doit être à moitié assise, ou bien si elle a eu des traumatismes qui empêchent qu'elle se couche, mais en général, elle se couche. Et puis, on lui dit ce petit texte, hein, ou des petits termes de détente. On l'invite à quitter le monde, à concentrer son attention sur l'intérieur de son corps et puis à entrer en contact avec son utérus, à le caresser avec la main intérieure, à lui demander si on peut entrer. Et ce qui est très important aussi, je pense, en relation avec ça, c'est que dans notre formation comme analyse du lien, une énorme part est donnée au fait de faire l'expérience soi-même de ce genre de régression. Ça veut dire que je pense qu'un cinquième environ du temps de formation est consacré au fait d'entrer soi-même en régression. Et on se couche, on reçoit un texte qui est un petit peu différent de celui qu'on dit aux femmes enceintes. Et puis brusquement, On a des sensations corporelles extrêmement fortes, même si on ne nous a pas dit qu'on allait se retrouver dans l'utérus de sa mère, même si on n'a pas, on n'a pas dit le mot utérus. Et souvent, dans un groupe, il y a, même si on ne parle pas pendant cette régression, il y a des choses semblables qui arrivent. Et puis après, ces 25 minutes, on a un petit texte pour la sortir de la régression, pour l'inviter à revenir dans, à remettre son attention vers le monde extérieur. Et alors, elle se rassied en général, certaines femmes restent couchées aussi. Et puis, elle raconte ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu, comment son bébé l'a vécu. Hein, il y a certaines femmes qui perdent un peu leur bébé du regard quand leurs expériences sont un peu trop fortes. Et donc là, c'est notre rôle aussi de toujours avoir le bébé en tête. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ou pas tout à fait? Parce que sinon, on pourrait demander à Ursula aussi.
Oui, non, non, c'est bon, merci.
Bon, ok. Merci. D'accord.
Oui, la question c'était, est-ce que c'est pas de l'hypnose? En fait, c'est un genre de communication extrasensorielle, quoi, d'âme à âme, presque. Enfin, je sais pas, mais...
Est-ce que ça pourrait être une forme d'hypnose, mais sensorielle, du coup, enfin, je sais pas comment dire, parce que ça m'évoque certaines notions de certaines pratiques d'approche de l'hypnose. Oui.
C'est un genre d'état modifié de conscience, quand même. Ursula veut répondre, je crois, non?
Oui, je dirais après. Je veux dire quelque chose,
yeah. Oui, volontiers. Laurence, vous êtes d'accord aussi que Ursula dise quelque chose?
Ich dachte, vielleicht wäre es klüger nicht von Regression, sondern von der Fähigkeit, den eigenen Körper zu erspüren, um damit einen Zugang zum Körper des Babys zu haben.
Ok, elle dit que ce serait peut-être plus malin de ne pas parler de régression, mais plutôt d'entrer en contact intense avec son corps, ce qui permet d'entrer en relation avec le corps du bébé.
Communication, oui.
Pas communication, c'est ça.
Communication sensorielle.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Oui, c'est bien.
Ce que certains font avec les mots, les méthodes, les CAM, communication avec les mots. Donc ça, c'est autre chose.
Ça peut conduire dans la régression, mais ce n'est pas toujours le cas.
C'est ça, c'est pas le but non plus, c'est ça. Je pense. Oui, c'est une bonne différence.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci. Je me permets d'une part, de plus en plus, on parle pour la grossesse de 4 trimestres de grossesse, pour dire que la grossesse ne s'arrête pas au moment de l'accouchement, mais pour prendre en compte la dynamique et le processus du lien et de la relation se poursuit au moins les 3 mois qui suivent la naissance, si on prend en compte une grossesse qui va à son terme et qui dure 9 mois. Et donc, maintenant, on parle communément de 4 trimestres de grossesse. Et d'autre part, ça m'évoquait ces questions de la régression, une auteure qui s'appelle Monique Bidlowski, qui parle de transparence psychique pour les femmes pendant la grossesse et dans la période périnatale, pour dire que, alors, ça vient croiser la question de la régression, ça vient croiser la question de l'hypnose, c'est-à-dire, donc, elle emploie ce terme de transparence psychique, que l'état de la grossesse place les femmes dans une situation psychique et sensorielle qui est tout à fait singulière et qui se prolonge quelques mois au-delà de la naissance, où la femme est sa sensorialité et sa psyché est dans un état, on pourrait dire, de porosité qui la dispose à être en relation avec effectivement ce qui est du transgénérationnel, ce qui est en relation avec sa mère, sa grand-mère, arrière-grand-mère, enfin, et plus particulièrement les femmes de sa lignée, mais aussi avec l'enfant et le bébé qu'elle a été et le bébé qu'elle projette. Ce qui fait qu'il y a une disposition dans le travail de thérapie, quel qu'il soit, avec les femmes enceintes, de ce fait à être je dirais, il n'y a pratiquement pas à induire un état d'hypnose, parce que l'état de la grossesse et les mois qui suivent l'accouchement font que les femmes ont cette disposition-là, voilà, qui permet cela. Et pour ça m'évoquait aussi, je travaille entre autres dans un lieu d'accueil enfants-parents, et dans les lieux d'accueil enfants-parents, c'est ce qu'on appelle des lieux de prévention primaire. Ce ne sont pas des lieux de thérapie, bien que ce soit des lieux de soins et de prendre soin de la toute petite enfance. Et avec la dimension du groupe et du collectif et des lieux où les parents, les mères principalement, mais les parents ont l'espace de pouvoir parler et reparler et re-reparler de comment se sont passées leurs grossesses, de comment s'est passé l'accouchement, les accouchements précédents, et en quoi le fait de l'entendre par d'autres, d'une part, est soignant, et d'autre part, la posture des accueillants, et du coup, notre pratique où on est pour accueillir le lien, on n'est pas là plus pour l'enfant que pour la mère ou le parent, on est là pour accompagner le lien, et qui passe parfois par... Notre mission, ça va être de mettre des mots sur ce que nous observons du bébé qui est là avec sa mère, qui parle de sa grossesse, qui parle de son lien à ses propres parents, de son lien à cet enfant-là et aux autres enfants, et en quoi mettre des mots pour l'enfant, que la mère entend aussi, mais dans une adresse à l'enfant. Je vois que tu écoutes, tu pleures, mais tes pleurs ont changé. Je vois comment tu te niches contre ta mère, la tétée a changé, tu te touches la tête. Enfin, voilà, ce sont tous ces mots-là et qui produisent les uns les autres. Vous avez dit à quel point sont des moments touchants et sensibles, parce que d'abord, nous sommes tous passés par ces moments-là. Il n'y a pas besoin d'être soi-même parent, on a tous été bébés. Et comment ces mots-là accompagnent l'enfant, on voit chez l'enfant ce que ça produit, chez la mère, et les mères après qui nous disent « Ah ben là, je ne comprends pas, ben maintenant il dort, ou il s'est remis à manger, ou etc. etc. »
Un grand merci. Je trouve que cette expression de transparence psychique est en effet vraiment très 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 bonne. C'est bien exprimé. Ce qui est très intéressant aussi avec ces 3 mois, c'est que après 3 mois après la naissance, c'est à ce moment-là aussi que le périnée, le plancher pelvien se referme. Donc, comme s'il y avait un parallèle entre le développement psychique, hein, l'ouverture, hein, les femmes restent tout à fait ouvertes pendant ces premiers 3 mois, et puis ce n'est qu'après ce temps-là qui va bien entendu, pas d'un coup, mais de façon graduelle, la femme va se refermer et l'enfant commence à aller vers l'extérieur. Hein, donc, on pense que jusqu'à 3 mois, l'enfant pense, ou bien l'enfant vit, je pleure, il n'y a personne qui vient, il ne viendra jamais personne. Et à partir de 3 mois, l'enfant peut commencer à avoir une certaine logique. Et à partir de ce moment-là, il va penser, je pleure, il n'y a personne qui vient, mais jusqu'à présent, il y a toujours quelqu'un qui est venu, donc il finira bien par arriver quelqu'un. Hein, et donc, c'est vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment un moment décisif où l'enfant commence à aller vers l'extérieur. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant ce que vous racontez là de ces 3 premiers mois. Merci.
Est-ce que je pourrais vous montrer une gravure? Je voulais vous remercier déjà pour votre intervention que je trouve très magnifique et très sensible. Et je voudrais vous montrer cette gravure que je trouve très belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Oui, oui, on la voit. Voilà.
Donc, il représente comment autour d'un embryon se trouvent en fait virtuellement les générations des mères précédentes. Mmh.
Voilà. Très beau. Vous voulez bien un peu la descendre, maman?
Oui.
Un peu, oui.
Voilà. Je pourrais l'envoyer si vous voulez pour la partage. Oui.
Merci. Mm-hmm. Volontiers. Diffusera. On mettra avec le webinaire, d'accord.
Merci.
Ah super. Oh là là. Ça va loin, hein?
Oui, ouais. Vraiment. Ouais.
Donc, on a déjà amorcé avec le témoignage de Marie-Do ce qu'on peut faire après, les trois premiers mois. Mais encore après, on doit pouvoir retrouver le lien.
Oh. En fait, je trouve que souvent, on a l'impression qu'il suffit de suivre l'énergie.
Oui.
Hein, que les adultes aussi nous racontent, enfin, qu'il suffit de suivre les sensations corporelles. Mm-hmm. Parce que c'est pas l'interprétation qui guérit, c'est vraiment le fait de revivre et revivre et revivre.
C'est exactement ce qu'on fait dans nos méthodes de résolution émotionnelle, même chez l'adulte, même des décennies après. Donc il n'y a pas de perte de continuité en fait. Hein. C'est vraiment très passionnant.
Je vais vous raconter cette semaine, j'ai eu une maman qui m'a appelée par téléphone là, pour une... parce que son bébé de 4 mois pleurait depuis le début du confinement. Et la maman était déjà elle-même, je l'avais vue il y a 2 ans, cette maman. C'est une jeune maman, elle a 23 ans. Ce bébé est arrivé un peu trop tôt dans son schéma. Et donc là, elle m'appelle parce que son bébé pleure toutes les nuits. Donc la mère est épuisée. Je la reçois d'ailleurs par téléphone en larmes. Donc, j'essaye de faire comme d'habitude, faire raconter à la maman, mais là, la mère le vivait mal. Et je lui avais demandé de prendre le bébé sur elle et de faire une résolution émotionnelle avec son bébé dans les bras. Et puis, la maman ne le supporte pas bien parce que le bébé... après avoir été au départ extrêmement calme, comme s'il sentait qu'on allait enfin s'occuper de sa maman, il s'est mis à s'agiter et la maman ne l'a pas supporté. Alors je lui ai dit, va poser ton bébé plus loin et puis tant pis s'il pleure et puis on va le faire ensemble. Et on fait une résolution émotionnelle. Bon, je ne suis pas très satisfaite de moi, je ne trouve pas que ça se passe super bien. Mais je lui dis quand même, vu que la maman était très, très dans les pleurs, je lui dis bah, que tu me rappelles demain, enfin le lendemain, pour me dire comment s'est passée la nuit, prête à recommencer une deuxième résolution émotionnelle. Et elle me rappelle le lendemain. Et alors là, une petite maman avec une voix hyper contente, ça va super bien, mon bébé a bien dormi. Et elle m'a dit, c'est surtout cette phrase qui m'a troublée, elle m'a dit... Et puis alors, maintenant, je peux le prendre. Et du coup, toujours en fin de séance, j'essaye de quantifier pour me rendre compte comment les choses ont été dans le mieux. Et du coup, je lui demande, ah oui, dis donc, tu m'as dit au début de la séance que c'était mieux, là, cette fois, que ça allait mieux depuis hier. Est-ce que tu peux me donner un pourcentage? Et elle me dit, oh oui, 90%. Et j'ai été étonnée que cette maman, voilà, comme s'il y avait quelque chose dans le lien qui avait pu ou se réparer ou se faire, ou enfin, je ne sais pas les mots qu'il faut dire, mais en tous les cas, c'était très net que la maman exprimait qu'il y avait quelque chose dans son... qu'elle s'était approprié le fait d'être devenue tout d'un coup une bonne mère, alors qu'il y avait quelque chose aussi de très culpabilisant pour elle. Enfin, voilà, je voulais vous témoigner ça, c'était...
Merci.
Oui, c'est vraiment très intéressant. Aline, tu veux pas parler? Tu avais des expériences comme ça où tu faisais des régulations émotionnelles sur la maman qui tient son bébé. Tu m'avais parlé d'un bébé qui s'est mis à dormir alors qu'il ne dormait pas jusque-là. Tu nous entends, Aline? Tu es là? Non, elle n'est pas là. Dommage. Et les... Il y en a qui travaillent avec des bébés ici, Anaïs qui doit se cacher aussi. N'hésitez pas à poser des questions. Hein.
Il y a une question de Guylaine à tout le monde.
que je trouve très intéressante. Le travail des doulas qui reprennent du chemin en France peut-il améliorer les émotions en périnatalité? Oui. Et on sait aussi que quand les femmes sont accompagnées par une personne féminine non professionnelle de leur famille ou bien une doula, enfin une doula est professionnelle bien entendu, mais que l'accouchement en général se passe mieux, avec moins d'intervention, avec un meilleur contact avec le bébé. Donc la doula est en fait la personne idéale pour accompagner une femme durant la naissance.
Nous avons eu dans nos formations gestion émotionnelle une doula, Agnès, qui était vraiment intéressée quoi, par tout ça, bien sûr. Bien, bien, ça donne vraiment envie de continuer, Annick, hein, je ne sais pas, des ateliers, des formations, enfin, on en reparlera. Et ce serait bien que vous nous donniez tous vos retours. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un atelier, une formation, d'approfondir hein, en réfléchissant à comment on peut faire à partir des adultes, parce que les adultes ont eu, comme disait Marido, ont été des bébés et il reste encore un peu quelque part. Je pense que ces relations qui ne sont pas résolues, elles perdurent dans l'entourage. Après, on appelle ça le transfert, on appelle ça autrement, mais je suis sûr que c'est des liens. Enfin, on voit des gens qui réagissent des fois oui, comme c'était en dépendance, en révolte, en souffrance.
Oui, aussi comme cette femme dont parlait Isabelle, la mère, quand les parents sont quand ils sont reliés à leur propre impuissance comme petits bébés, quand leur enfant pleure, ils peuvent à peine les supporter.
Eh oui.
Elle ne peut pas le prendre, ni le comprendre.
Oui. Eh oui, parce que ça réveille leur propre douleur, je suppose.
C'est ça.
Oui, c'est passionnant. Hein.
Oui. Eh bien, comme disait Irène, dommage qu'on n'ait pas connu ça plus tôt. Mais ça fait son chemin.
Tout à fait.
C'était un peu, quand on a rencontré Ludwig, ses méthodes, c'était un petit peu notre objectif. Je parle d'APES, d'être un relais parmi d'autres de cette méthode en France, parce qu'il y a assez peu développé, effectivement.
Oui.
Oui, je pense qu'on ne sort pas de notre rôle, même si bon, c'est pas, ce qu'on fait, ce n'est pas que de l'obstétrique, de la périnatalité, mais en attendant que d'autres prennent leur lait dans des domaines plus spécifiques.
Oui.
Ah oui, on ne sort pas du tout de notre rôle, là.
Non. Vraiment, merci.
Je pourrais... Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, Dominique, bien sûr, si vous parlez.
Bonsoir à tous. J'aurais voulu poser une question. Est-ce que cette thérapie du lien pourrait est-ce qu'on pourrait les femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, est-ce que ça pourrait être intéressante pour elles ?
Plusieurs personnes en Allemagne qui sont à fond dans ce sujet-là, il y a un dialogue avec l'utérus, par exemple, pour le préparer à une conception artificielle. De temps en temps, on expérimente en effet que le fait d'être en relation avec son corps aide à devenir enceinte. Donc, en effet, ça peut. C'est pas le but premier de cette méthode, mais il y a certaines personnes qui l'ont employée pour ça et qui ont de bons résultats.
Ok, merci. Merci.
Il me semble que tu as cité le cas de quelqu'un tout à l'heure qui a eu, qui après ce travail, a eu un bébé, non ?
Oui.
C'est ça. Hein. Ah, c'est vraiment...
Ça m'évoque une dame que j'ai vue il y a peu en fait, qui, donc je suis conseillère conjugale et familiale par ailleurs, et qui m'avait été adressée par les collègues du centre de planification qui travaillent au centre d'IVG. Une dame qui était, donc, avait eu pour la sixième fois une IVG au centre de planification, ils sentaient que ça tournait en rond sans trouver comment l'accompagner autrement. Donc je l'ai vu. Cette proposition là avec EMRS, et en fait tout c'est arrivé au bout à ce qu'elle mette en lien avec le fait que sa mère avait eu un cancer de l'utérus où ça s'était diagnostiqué de manière inattendue avec une intervention très rapide à la suite où il y avait eu des difficultés et la mère est décédée rapidement. Et alors on peut en tout cas émettre l'hypothèse que cet événement traumatique pour sa mère, l'agissait par ses débuts de grossesse où chaque fois elle venait, elle n'avait pas de désir d'enfant. Donc ça aboutissait à une IVG et où elle disait, en étant consciente qu'elle était dans l'incapacité jusque-là à prendre une contraception qui lui était prescrite à chaque fois, mais elle voyait bien qu'elle en était dans l'impossibilité sans pouvoir si je puis dire, se contrôler ou se l'imposer. Affaire à suivre, mais je lui avais demandé qu'elle me tienne au courant de ce qu'il en était, je ne l'ai vue qu'une fois. Et en tout cas, pour le moment, elle est en situation où elle arrive, donc elle a une pilule, puisque après une IVG, ça dépend des services, mais enfin en général, on déconseille la pose d'un stérilet directement au moment de l'intervention, donc une prise de pilule. Et donc là, en tout cas pour le moment, elle arrivait à prendre sa pilule, donc à voir dans la durée. Mais en fait, ça, voilà, pour dire que l'interrelation, ça peut être du côté des difficultés à avoir des enfants, mais comment se joue, se rejoue, se réactive dans des agir, là du coup qui aboutissent à des IVG multiples pour une personne. Mm-hmm.
Oui, elle doit devenir enceinte, elle ne peut pas employer de contraception et elle ne peut pas conduire des enfants à terme.
Mm-hmm. Oui.
Comme des interdits contradictoires.
Absolument. Mm-hmm.
Et ça m'intéresse de savoir comment vous avez conduit votre séance alors en partant de... Ouais, comment vous avez fait sur quoi en fait, sur quelle situation
très... Donc, elle avait eu mes coordonnées donc, par les collègues du centre de planification. Elle m'avait appelé en faisant état de cette situation-là, de là où elle en était, elle et qui devenait impossible pour elle. Je suis encore en cours de formation validation EMRS, mais j'avais en tête ce que j'avais entendu les formations où il faut que la personne soit prête. Donc je me suis dit, en tout cas, il y a une demande et où pour elle-même, quand elle prend contact, elle prenait contact en disant que ça devenait impossible pour elle, cette situation-là. Donc, elle m'a raconté le fait que il y avait eu cette succession d'IVG qui chaque fois se produisent de la même manière. Elle ressort avec une prescription, mais où elle est dans l'impossibilité de prendre cette contraception. Donc, à un moment donné, elle se retrouve enceinte. En plus, généralement, ce sont des femmes, la psyché fonctionne très bien, qui, elles, n'ont aucun problème pour tomber enceinte. La répétition fonctionne à merveille dans ces situations-là. Et donc, elle me racontait ça de manière très, Je fais le geste avec la main, très, pour le coup, désaffectivée. Et puis, je ne peux pas vous dire quoi, mais il y a un moment donné, je lui ai demandé, ben, et qu'est-ce que ça vous fait là dans votre corps ? Et là, c'est là que s'est fait le... J'aimais l'hypothèse que j'en ai perçu quelque chose. En tout cas, consciemment, je n'ai pas perçu quelque chose dans sa posture physique. Je n'ai pas consciemment perçu quelque chose dans le timbre de la voix. Mais à un moment donné, ça s'est, en tout cas pour moi, imposé ou posé, de lui poser cette question-là. Mmh. Et là, par contre, elle est rentrée tout de suite dans cette situation-là, et où, au bout, ce qui est ressorti, c'est à ce moment-là, elle a évoqué sa mère et le cancer de l'utérus pour sa mère et l'intervention pour sa mère, et où elle disait, mais du coup, elle se demandait si elle avait vraiment plus rien, elle-même.
Merci.
Je vous en prie.
Ça ouvre plein d'horizons. Alors, tu veux nous parler, Annick, du lien, enfin de comment expliquer par les conditionnements, les traumatismes périnataux, cette réaction face au virus, face l'angoisse, je sais pas quoi, l'angoisse de mort, l'angoisse. Tu m'avais dit que tu avais une idée par rapport à ça.
J'ai une idée pour du lien, simplement, mais je n'ai pas... Mmh. D'interprétation en disant ça vient de ça, mais ça me le confinement me rappelle ou bien me fait penser que peut-être certaines personnes se sentent pendant le confinement comme pendant la grossesse.
D'accord.
Hein, et que ça fait plein de réactions différentes. Et voilà, j'ai pas plus approfondi que ça, mais je me suis dit que les réactions étaient certainement pas seulement des réactions de peur qui avaient à voir avec des faits médicaux, mais oui. Qu'il y avait plein d'inconnus qui venaient de très très loin.
Bien d'accord. Je pense que beaucoup de gens ont eu l'occasion pendant ce confinement de travailler sur eux parce que ça révélait plein de choses.
Oui, tout à fait.
Serait-ce que la contrainte, l'enfermement, sans parler des relations selon les personnes avec qui on est. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas.
Hein. Il y a encore une question concernant, si j'ai de l'expérience, ou je ne sais pas si c'est à moi, concernant des gestations pour autrui. Non, moi je n'ai pas d'expérience avec l'analyse du lien en relation avec les gestations pour autrui.
Ah oui.
Je m'imagine que ça doit être dur.
Alors, oui, c'est bien, tu as pu suivre les conversations. Mm-hmm. Pratique ce Zoom.
Oui.
Moi, j'ai une question, si je peux.
Oui, bien sûr.
J'aurais aimé savoir, en fait, quelle est la place du Père dans tout ça et comment le Père peut se positionner pour être le plus supportif possible pendant la grossesse et après la grossesse, bien sûr. Oui. Et la place du Père, j'imagine qu'il y en a une, et voilà, comment on peut aborder ça.
Oui, une question très importante. Oui. J'avais décidé de ne pas en parler tout de suite parce que ça faisait beaucoup. À l'origine, la méthode a été plutôt développée pour les femmes, mais avec le temps, aussi bien, enfin nous tous, Ursula et moi aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de pères qui étaient demandeurs de faire cette méthode. Et alors, ils accompagnent leurs femmes. Il y a beaucoup, on a souvent des couples. Et moi, personnellement, je ne change pas du tout le texte qui aide, qui soutient la transparence psychique. Mais donc, je dis d'aller dans son utérus et de prendre contact avec son bébé. Et je me dis que les pères en font ceux qui veulent, donc je ne change pas le texte pour qu'il soit bienvenu. J'ai l'impression qu'il est là de toute façon et c'est son enfant, c'est sa femme, c'est leur couple. Donc, ce n'est pas à moi à faire qu'il sente le bienvenu parce que ça lui appartient. Et il y a certains pères qui retournent, qui arrivent dans l'utérus de leur mère, donc dans leur première demeure, comme on l'appelle parfois. Et il y a certains pères qui, par leur présence, aident leur femme à faire des remaniements très douloureux parfois et à regarder des choses qui font très très mal. Je me rappelle d'un père qui était architecte et lui allait dans cet état second et pendant tout le temps où sa femme était vraiment occupée à des choses très très dures de son enfance ou même des expériences qu'avait faites sa mère à elle, il construisait des petites maisons en terre, des choses très archaïques, hein, et il ne faisait pas ça consciemment. Mais à mon avis, par là, il disait à sa femme, tu es en sécurité, je suis là pour toi, je te donne un contenant, hein, je serai là pour toi et pour notre enfant. Et donc, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a un cas d'un père qui s'endorme, mais dès que je disais les premiers mots, vérifie si tu es installé confortablement, le père s'endormait. Et puis, dès que je disais les derniers mots, le père se réveillait et n'avait absolument rien entendu de ce qui s'était passé entre-temps. Mais sa présence était très importante. On demande aussi au père s'il a envie, même quand il ne participe pas à l'analyse du lien, de mettre sa main sur le ventre de sa femme, donc d'entrer en contact avec son enfant tous les jours de la grossesse pendant 15 minutes environ. Et ce qui me paraît important, c'est que très souvent, il y a des pères qui mettent la main sur le ventre parce que la femme a dit « viens vite voir, il bouge ». Et puis alors le père arrive et puis évidemment le bébé a arrêté de bouger et puis le père dit il veut pas entrer en contact avec moi ou bien c'est terminé et il retire sa main. Et donc l'idée c'est vraiment que le père dise je suis là et tu n'as pas besoin de me prouver que toi tu es là aussi, je suis ton père, c'est moi l'adulte, hein, et je te donne ma présence. Et évidemment les gens n'ont pas besoin de nous pour qu'on leur conseille de faire ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couples qui disent « Ah, ça, c'était vraiment génial de faire ça parce que ça nous a fait du bien que ça vienne de l'extérieur parce qu'on l'a vraiment fait. » Et on l'a fait tous les jours quand on était au lit à 22 heures. Et ce qui est positif aussi, c'est que pendant la naissance, le père connaît l'enfant. Et donc peut vraiment parfois le guider ou bien l'aider, le consoler, le rassurer. Et après la naissance, le père reconnaît l'enfant. Ce n'est pas un total inconnu pour lui. Voilà, je pense que ce sont les choses essentielles.
Merci.
Du travail avec le père. Donc il est important. Parfois, on l'invite pour certaines séances aussi. Il y a beaucoup de mes collègues qui aiment que le père soit là pour cette dernière phase de préparation. Moi, j'aime beaucoup que le père soit là, par exemple, quand on raconte au bébé comment tout va changer après la naissance, hein, cette histoire de gravité, de lumière, etc., parce que j'ai l'impression que ça aide les parents à se mettre à la place du bébé et à vraiment être très, très respectueux après la naissance.
Tout bien. Merci beaucoup.
Merci pour la question, Cédric. C'était vraiment intéressant.
Il y a encore des questions, là?
Je voulais encore ajouter aussi qu'on a vu que l'influence du père pour le bébé peut être vraiment très grande, à un niveau aussi, hein, comme ce bébé ce petit garçon qui s'est mis en siège comme son père. Et donc, que le fait que le père retravaille certaines de ses émotions est évidemment très important. Hein, il n'est pas là seulement comme accompagnateur, comme le père architecte ou le père dormeur, mais il y a des pères qui entrent vraiment dans leur truc à eux, ce qui vraiment les prépare à la paternité. Voilà, Sophie, désolée, je vous ai interrompu.
Alors, moi, j'aurais une question, je ne sais pas si
Anaïs, vas-y.
Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment très intéressant. Alors moi, je suis psychomotricienne et du coup, je me posais la question des remaniements corporels. Est-ce que vous, en tout cas, vous accompagnez les changements corporels qui se passent pour la maman et qui peuvent parfois être source d'angoisse et qui sont liés à l'hypersensibilité, à cette période, je pense, de transparence psychique. Et je me demandais si, voilà, au niveau corporel, comment ça se passe à ce niveau-là.
Désolée, mais je n'ai pas compris votre question.
En fait, moi, par exemple, j'ai une expérience où j'ai été en unité de psychiatrie périnatale et j'ai pu accompagner une maman qui avait des troubles du comportement alimentaire de type anorexie. Alors moi, du coup, je l'accompagnais sur quelque chose de très sensoriel pour l'aider vraiment à se focaliser sur ses sensations et à être plus sereine vis-à-vis de l'accouchement et vis-à-vis de sa grossesse. Donc, on avait mis tout en place un protocole de relaxation. Je l'accompagnais avec des bouillottes, avec des pressions à différents endroits du corps. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des séances, elle a pu me dire qu'en fait, finalement, ce qui l'angoissait beaucoup, c'était ce qui allait se passer au niveau de son corps, au niveau des changements, qu'elle allait prendre du poids, qu'elle allait grossir, que après l'accouchement, elle allait allaiter son enfant. Donc, finalement, il y avait quelque chose de l'appartenance de son corps qui était très angoissant pour elle. Du coup, je me demandais si vous avez pu observer ça dans votre clinique et comment, finalement, accompagner la maman au mieux pour qu'elle se sente à l'aise avec ces changements corporels.
En effet, ça arrive de temps en temps, mais vraiment super peu, je trouve. Que les femmes thématisent ces changements, mais ça arrive peut-être chez 5 à 10% des femmes. Et en général, quand on laisse venir ce qui est à l'origine, parce qu'il y a toujours, faut toujours aller chercher plus loin. Hein, c'est pas beau un gros ventre. Il y a toujours eu quelque chose dans l'histoire qui a conduit à ça. Et là, je suppose que c'est la même chose que dans votre travail à vous. Quand on arrive sur ce qui a été dans l'histoire, sans jamais le chercher de manière analytique, mais simplement en laissant venir, en suivant les sensations, en général, quand on a touché du doigt sur la plaie plus profonde, les femmes sont en paix avec leur corps aussi. C'est ce que j'ai pu expérimenter.
D'accord.
Mais ça n'a jamais été la motivation pour faire une analyse du lien. Hein, les motivations, c'est vraiment en général le contact avec le bébé ou bien un accouchement traumatique ou bien une dépression de postpartum. Donc, ce sont des traumatismes plus récents.
D'accord, merci.
Très bien, merci pour vos questions, c'est très, très enrichissant. Donc n'hésitez pas, est-ce qu'on peut questionner? Oui, on peut questionner sur tout. Et je crois que ça a été fait. Hein.
Oui.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a tellement de développement qu'on y passerait bien la journée, la nuit. Il y en a déjà deux qui ont dit que ça, une formation les intéresserait. On verra avec Annick, oui.
Mm-hmm. Moi, et avec Ursula.
Passionnant. Mm-hmm. Comment tu dis, Annick? Je dis.
Et avec Ursula aussi, qui éventuellement...
Oui, oui bien sûr. Oui. Mm-hmm. Bien sûr. Oui, ça, on verra.
Oui, tout à fait.
La formation complète pour l'analyse du lien, c'est 15 week-ends. Hein, donc, c'est une grosse formation.
Oui, c'est une grosse formation.
C'est vraiment, ça s'adresse vraiment à des spécialistes, quoi, des professionnels.
Donc, on a vraiment envie d'aller dans cette direction. Voilà. En fait. Enfin, des gens qui travaillent, en général, des gens qui travaillent dans la périnatalité. Voilà, ou bien alors, il y a des thérapeutes aussi qui se lancent dans cette direction aussi.
Voilà.
Et alors, ça nourrit aussi leur pratique.
Bien sûr.
Habituelle.
Bien sûr. Et comme on en avait parlé, nous qui sommes praticiens enfin, enfant ou surtout adulte, ben, on avait appris ça avec Ludwig, demander à la personne comment s'est passée sa naissance, ça peut, rien que ça, réveiller des émotions qu'on peut gérer. Mm-hmm. Et moi, je me rappelle d'une psy que j'avais rencontré qui m'avait dit, mais il y a des boulevards entre notre vie maintenant et la période périnatale, mm-hmm. au niveau sensoriel. Donc, si on peut trouver ces passages, je pense qu'on peut vraiment gagner beaucoup de temps et d'efforts et de prise de tête pour la prise en charge de nos patients adultes. Mm-hmm. Oui. On est déjà là-dedans, hein, avec la régulation émotionnelle, parce qu'on touche ça assez vite, mais oui. Si on peut avoir encore des petits trucs pour aller encore plus vite. Mm-hmm. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très, très passionnant. Et les retours des gens, il y a des gens qui sont partis, mais qui... Catherine...
Oui, tout à fait. Les gens étaient... Il y a 4 personnes qui sont intéressées.
Je note les gens qui sont intéressés par une formation complète.
Je les ai pris, si tu veux, Jacques.
Comment tu...
Je les ai notés, si tu
okay,
veux.
Ok, super. D'accord. Très bien.
Oui, ouais, c'est vraiment passionnant. Et je pense qu'il y a vraiment un lien à faire, effectivement.
Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ça m'ouvre encore des perspectives, quoi. Mais... pas des petits trucs, quoi, immense, hein, vraiment.
Ah ouais. Merci beaucoup, Annick. Merci à Jacques, parce que c'est toi qui as invité Annick.
Ben, c'est Annick qui m'a contacté. Donc merci à Ludwig, et merci à Pez, et merci à tout le monde. Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Cédric est intéressé par une formation aussi. Donc, je vous propose de faire une formation à San Francisco.
Ah ben, je veux bien m'occuper de l'organisation. Ursula, du bist doch regelmäßig in Amerika, oder?
Yes.
Was war die Frage?
Cédric, der in San Francisco lebt, ist auch an eine Weiterbildung interessiert.
Ah, schön.
Et on va expérimenter, parce qu'avec Cédric, je devais aller faire une formation trop psychosomatique, et comme tout est incertain, le Covid, les transports, on a dit, ben, on va expérimenter une formation par Zoom. Donc on va voir, lui il traduira, il y aura des gens comme ici avec plusieurs personnes, puis on va voir si on peut tenir les 3 jours qu'on a prévus.
Oui, pas de problème.
Si Cédric veut participer à une telle formation, même à distance, je pense qu'on va se rôder à ça de plus en plus. Hein.
Oui. Cédric, den Kontakt herstellen zu denen, die in Amerika ausgebildet. Il y a des collègues qui sont entraînés dans les
États-Unis.
Ouais. À cette et méthode, oui, bien sûr.
Nous pouvons donner vous les adresses.
D'accord. Oui, s'il vous plaît. Mm-hmm. Ah oui, oui, ça m'intéresse, absolument.
Ludwig est allé à une conférence, une intervention.
Même en ce moment, dans cette phase de développement.
Ce serait très intéressant de créer du lien, absolument. Oui, je suis bien intéressé d'avoir des... des contacts, absolument.
Je donnerai les adresses à Annick et peut-être vous pouvez.
Mm-hmm. Super. Très bien. Très bien, merci.
Annick, ich habe noch eine Frage, ob es von Wert sein könnte zu sagen, dass die Bindungsanalyse keine Therapie ist, sondern eigentlich für gesunde Schwangere entwickelt wurde und dass ein Teil des Trainings darauf zielt, auch in der Anamnese zu unterscheiden, ob Leute Hilfe brauchen, mehr psychische Hilfe und vielleicht eine Therapie parallel zur Bindungsanalyse. Mm-hmm. Das ist vielleicht noch interessant, oder?
Mm-hmm. Okay. Ursula ajoute que l'analyse du lien n'est pas une thérapie, mais un accompagnement de femmes saines. Et que l'anamnèse, le but de l'anamnèse est aussi de voir si la femme a éventuellement besoin plutôt d'une thérapie ou bien en accompagnement d'une thérapie. Hein, par exemple, s'il y a une femme qui est avec un syndrome de borderline, on ne peut pas l'accompagner uniquement par l'analyse du lien.
Bien sûr.
Ja. Mm. Und vielleicht noch was in dem Kurs, dass das erste Drittel der Theorie gilt und auch diese diagnostische Unterscheidung, und dass dann 2 Drittel des Kurses gebraucht werden, diese lange Zeit, um sich in die Praxis einzuüben, weil keiner ist ganz gesund. Ne?
Ja. Elle ajoute aussi que le premier tiers du cours est dédié à la théorie de l'analyse du lien, donc de la méthode, et que les deux tiers suivants sont surtout des accompagnements du travail. Donc, on commence à travailler avec l'analyse du lien après environ un tiers du cours, une fois qu'on a eu toute la théorie. Et le reste du cours, c'est vraiment l'accompagnement du travail avec l'analyse du lien, donc des supervisions. Donc, c'est vraiment une grande part est à pas des exercices pratiques dans ce sens-là, mais vraiment l'accompagnement du travail qu'on fait en apportant des cas, en reparlant, etc.
La technique des interventions.
Oui, c'est ça. Pour apprendre vraiment à cas par cas la technique des interventions.
Super. Didier nous parle de « Merci pour ce retour au point zéro ». Ça me parle bien, ça, retour au point zéro. Je ne sais pas si c'est la cellule ou l'âme ou avant, mais oui, c'est exactement ça. Je crois. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est vraiment essentiel. Super. Là, ça me réjouit vraiment, vraiment qu'on ait pu faire ça. Ouais. Bien, bien. Bon, 19h39, c'est une bonne heure, hein, pour. Mais si vous avez d'autres questions.